depuis l'époque où ils étaient leaders de mouvements gauchistes jusqu'à l'époque où ils sont sur les plateaux de télé. Cette continuité-là, c'est-à-dire comment peut-on rester le même? Moi, c'est une des questions à laquelle j'ai essayé de répondre dans la décennie.
Serge Halimi, vous avez préfacé la réédition du bouquin de Ken Game.
Bon, je l'ai préfacé parce que quand le livre est sorti, j'ai éprouvé, comme beaucoup de lecteurs, un sentiment de libération. Je me suis dit, tiens, enfin, quelqu'un ose dire ce que je perçois. Et ce sentiment de lire un ouvrage qui était précurseur, quand j'ai eu à le relire quelques années plus tard, j'ai fait la même observation naturellement que François Cusset, c'est que les cibles d'Hocken Game étaient toujours en place et que chez ces intellectuels ou ces hommes de médias où on ne cesse d'invoquer la nécessité du renouvellement, eh bien on y souscrit très peu lorsqu'il s'agit de soi-même. Et on a le sentiment effectivement que le temps s'est un peu arrêté et que sur les plateaux de télévision caquettent les mêmes personnages depuis maintenant près de 25 ans.
Frédéric ?
Moi, je suis sage, je fais l'économiste de service, donc je retiens de l'archive qu'on a écouté l'idée qui s'applique parfaitement au domaine économique que la restauration commence à la fin des années Giscard, et en effet, du point de vue de la politique économique, qui fait rupture, c'est l'aimable professeur Barr qui va récuser tout le référentiel keynésien déclaré obsolète et qui va commencer à expérimenter des méthodes de politique économique qu'on va retrouver pendant les deux décennies qui suivent.
C'est pas mal de citer Raymond Barr, ça nous ramène à l'antisémitisme, et ça nous ramène à aujourd'hui.
Je crois que la restauration réelle des idées dans ce pays, elle a commencé à la fin de Giscard, et elle s'est faite de façon massive, à mon avis, sous Mitterrand et sous la gauche. Et ce que j'appelle la restauration, c'est le fait que tout ce qui avait été contesté, tout ce qui avait été nié, tout ce qui avait été provoqué d'une certaine manière par mai 68 et la suite, est redevenu, au contraire, un sujet de respect, de conformisme, d'agenouillement, à savoir le pouvoir d'État, le fric, l'armée, la bombe, l'économie en tant que sujet abstrait, comme ça, devant lequel on s'incline. Tout ce qui, d'une certaine manière, avait été rejeté par une adolescence utopique ou généreuse.
Et ce sont ces mêmes jeunes gens.
Et ce sont les mêmes qui ont fait les deux opérations. C'est-à-dire, ce sont les mêmes qui ont fait mai 68 et les mêmes qui ont fait cette restauration idéologique.
Oui. Mais dans Vive la crise, on avait utilisé la même archive. C'est-à-dire qu'on avait utilisé le même Hocken Game. À croire que personne d'autre qu'Hocken Game dans cette décennie avait vu juste. C'est pas possible, François Cusset.
C'est très difficile de trouver un autre son de cloche. Alors, cela dit, attention, il y a évidemment d'autres sons de cloche. La question est plutôt le fait qu'ils soient inaudibles. On trouve des textes fortement critiques. Moi, j'en ai trouvé pas mal du côté des grands intellectuels critiques. Donc, oui, il y a des voix critiques, mais elles sont non coordonnées, elles sont isolées, elles sont inaudibles.
Ouais. Quand on a dit c'est tous des renégats, on va un peu vite.
Non, d'abord, il y a le fait que la gauche est au pouvoir, qui crée un phénomène immédiat de solidarité obligée des intellectuels dits de gauche avec cette gauche de pouvoir, même si la critique. Ils doivent le faire discrètement parce que ce serait quand même cracher dans la soupe, eux qui voulaient cette gauche au pouvoir depuis longtemps. Voilà, ils sont pris entre l'impossibilité de la critiquer et puis le refus par contre de la soutenir explicitement. Donc qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? On se tait, on parle d'autre chose. Il y a quand même ça qui change pas mal la donne. Et puis il y a le fait que toute critique est vraiment diabolisée. C'est-à-dire que sur les plateaux de télé, dans les studios de radio, l'idée même d'avancer une critique d'envergure, ça veut dire, quelques années après le mouvement antitotalitaire, que vous êtes perché sur votre mirador, au-dessus de votre goulag. Vous êtes un garde-chiourme de Brejnev. Vous êtes un immonde personnage, si vous parlez même de critique sociale. C'est vraiment une période un peu hystérique. Ça va se calmer après. Il faut dire que c'est le pire, je pense, de la période.
Parce que, naturellement, la critique existe quand même dans les syndicats, à la CGT, dans une fraction de la CFDT. Je veux dire, on n'adhère pas du tout à ce discours de modernisation libérale. De la même manière, au plan politique, le Parti communiste ou à l'intérieur du Parti socialiste, Jean-Pierre Chevènement, ne sont pas résignés au virage de la rigueur depuis 1983. Mais, comme vient de le dire François Cusset, leurs propos sont complètement disqualifiés par le discours antitotalitaire qui assimile toute critique de l'ordre libéral et toute critique des États-Unis à une adhésion au modèle soviétique.
Le gong retentit pour le premier round et Rocky Balboa gagne le centre du ring.
Le russe pilonne l'américain.
Rocky est touché. Il a réveillé le faux endormi et il le fait. Une simple droite. Drago a envoyé Rocky Balboa à 5 mètres.
Le russe a envoyé Rocky Balboa valser dans son coin comme une poupée chiffon.
3 minutes qui ont été un sale quart d'heure pour Balboa. Car il doit affronter non seulement un boxeur apparemment imbattable, mais aussi affronter une